Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui et nous avons le plaisir d'accueillir Jonathan Lehmann à l'occasion des 10 ans d'Apinèse pour échanger avec nous sur le thème de sérénité. Bonjour Jonathan.
Salut Nathalie.
Alors sérénité, c'est un mot que tu connais bien, peut-être un tout petit peu moins bien maintenant que tu es devenu papa récemment.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a des moments où je le suis plus trop serein, mais je pense que ça fait partie du processus d'apprentissage et d'évolution que me présente la vie avec ce petit être, notre fils Salvador à 15 mois. Et il est hyper mignon, mais c'est aussi le challenge de ma vie, c'est clair.
Et alors, pourquoi tu as choisi ce thème? Parce que je t'en avais proposé plusieurs et spontanément, tu as choisi celui-là. Si je me souviens bien, je ne t'ai pas forcé la main sur sérénité. Parce que parfois,
ouais,
je force un peu la main parce que je trouve que ça va bien avec la personne.
Ouais.
Mais tu l'as choisi spontanément?
Parce que ça me semble un objectif important, la sérénité. Je pense que une des erreurs qu'on commet dans notre quête de bonheur, c'est de confondre plaisir et bonheur. C'est un peu ce qui se passe au niveau de la société qui nous présente différentes manières d'obtenir du plaisir, d'acheter des choses, d'obtenir des notifications qui vont relâcher de la dopamine dans le cerveau, le sexe. Et il n'y a évidemment rien de mal avec le plaisir dans la mesure où il vient dans le flot de la vie et on l'apprécie et ça fait partie d'une bonne vie. Le problème, c'est que souvent, on confond bonheur et plaisir. Et si on n'a pas le plaisir qu'on croit vouloir ou qu'on croit mériter, alors on rentre dans une frustration. Et on a une intolérance.
Et donc, dans de la souffrance.
Et donc,
et on se sent malheureux.
C'est ça. On a une intolérance à la douleur. Et il me semble que la clé du bonheur, quelque part, c'est savoir accepter la douleur.
Et toi, justement, cette recherche effrénée de plaisir, tu l'as connue quand tu étais jeune?
Ouais, je l'ai connue. Et honnêtement, je la connais toujours aujourd'hui parce que les conditionnements ont la peau dure. Oui, à l'époque, je faisais la fête, je prenais des drogues, je portais une Rolex. c'était oui, il n'y avait que le plaisir. Il n'y avait que le plaisir parce que il y avait une pauvreté intérieure, il y avait une méconnaissance de moi-même, et donc il y avait une grande peur de me retrouver face à moi-même. Et donc le plaisir permettait d'anesthésier ce qui n'allait pas. À savoir beaucoup de choses.
Une peur de te retrouver face à du vide intérieur.
Ah ouais, face à du vide, face au discours de mon mental, face à des choses, instinctivement, je devais sentir qu'il y avait des choses qui me gênaient, que je ne voulais pas voir remonter. Donc ouais, ça, j'ai beaucoup connu, anesthésié avec le plaisir. Mais ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est que quelque part, la clé du bonheur, c'est d'accepter, savoir accepter la douleur, savoir accepter le non-plaisir. Là, je dans ce que je dis, je postule que on est soit face à un plaisir, soit face à une douleur. Que, en gros, ce qui correspond à nos préférences biologiques, c'est ce qu'on va appeler plaisir, et ce qui ne correspond pas, c'est de la douleur. Et donc, quand le flot de la vie nous offre quelque chose qui est aligné avec nos préférences biologiques et que c'est du plaisir, ce n'est pas difficile d'être heureux. En revanche, c'est quand il y a de la douleur qu'on est vraiment testé et que là, on peut voir si on a développé son muscle du bonheur et si on est capable de l'activer. C'est ce que j'ai appris notamment dans mes séjours de méditation Vipassana où on médite pendant 10 heures, on ne doit pas bouger, les jambes font mal, les genoux, les pieds, le dos. Et en fait, on est invité à voir qu'on peut garder la paix en dépit de la douleur et que du coup, la douleur ne se transforme pas en souffrance. Et cette paix est synonyme de sérénité. La sérénité, il me semble que c'est cette paix intérieure à laquelle on a accès, parce que ce que nous disent, on a tous accès, parce que ce que nous disent les enseignements ancestraux, de Bouddha jusqu'à Ramana Maharshi, c'est que cette paix, c'est en fait pas quelque chose que l'on atteint, mais c'est quelque chose que l'on est et que l'on retrouve quand on se débarrasse des choses supplémentaires. J'ai longtemps pensé sur le chemin spirituel qu'il fallait que j'accumule des expériences, des connaissances, des pratiques, et que ça allait me rendre plus spirituel, plus proche de l'éveil, plus heureux. Et c'est que récemment que j'ai compris que le vrai processus était sans doute plutôt un processus inverse. Merci. Je dois me débarrasser de conditionnement, je dois me débarrasser de croyances, je dois lâcher des pensées qui sont parasites. Et là, je retrouve la paix, la sérénité, on peut l'appeler la joie aussi, que je suis. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur mon fils, je vois lui comment il est naturellement. Pour la première fois, je suis tous les jours avec un bébé. Et je vois qu'il est la joie naturellement. Il est il est la sérénité, il est la paix. Évidemment, il est super actif et parfois il pleure. Mais sa nature, c'est une nature de joie, c'est une nature de sérénité. Et on a tous été comme ça. Et c'est juste ensuite l'éducation, la société, l'école, les conditionnements qui viennent nous éloigner de ça.
Et du coup, qu'est-ce que justement, en voyant comme ça ton enfant bébé et en ayant traversé ce chemin où il a fallu que tu enlèves toutes les feuilles de l'artichaut pour revenir au cœur, quelles alertes tu as en tant que papa en te disant qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux favoriser pour que mon enfant reste au plus près de sa nature, sachant que de toute façon, il va être exposé à des contraintes extérieures, mais je peux quand même favoriser des choses. Est-ce que tu penses à ces choses-là ?
Toute la journée. Ouais, j'y pense. On y pense énormément avec Jeanne, sa maman, on en parle beaucoup. Jeanne a accouché à la maison parce que elle pensait que ce serait mieux pour le bébé d'arriver à la maison plutôt qu'à l'hôpital, de qu'on coupe pas le cordon tout de suite, que on essaye de minimiser le trauma qu'est la naissance. On a essayé de le porter beaucoup parce que ce qu'on a appris en se renseignant sur comment bien s'occuper d'un bébé, c'est que en fait les techniques d'éducation qu'on applique aujourd'hui ont été inventées, dans la société en général, ont été inventées pour la plupart au 19e siècle par des hommes blancs qui essayaient d'adapter l'éducation à la révolution industrielle. Et que à chaque génération, on change les règles, on change les principes, que c'est un signe que en fait, on ne sait pas ce qu'on fait, et qu'à côté de ça, depuis des millénaires, on élève des enfants et on fait ça super bien. Et ce que je pense qu'on trouve dans nos milieux aujourd'hui, le milieu des happiness, des antisèches, de ce que moi j'aime bien appeler l'engrenage, qu'en fait, il y a énormément à apprendre de ce que font les tribus de chasseurs-cueilleurs et leurs héritiers aujourd'hui, parce que c'est de la parentalité de génération en génération pendant des siècles et qui a fait ses preuves.
Parentalité et intégration à la communauté.
Pardon ?
Intégration à la communauté aussi.
Intégration à la communauté.
Les enfants sont responsabilisés rapidement, mais pas dans le sens des responsabilités trop lourdes pour leur âge.
Ouais,
au contraire, petit à petit qu'ils s'intègrent. Ils sont ni des enfants rois, ni... Enfin, c'est vraiment très, 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 très différent de ce que nous, on connaît. Ouais, mais c'est difficile à... C'est très difficile à mettre en place en Occident, à part si tu vis dans un petit village ou dans un petit hameau, que tu connais tous les voisins et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, et du coup, tu peux construire une petite communauté. C'est compliqué. Si t'habites dans une ville, c'est super compliqué de faire ça, et même si t'en rêves.
C'est clair.
Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu peux faire toi-même avec ton enfant, et le portage, oui, ça c'est... Excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, non, je t'en prie. Mais oui, non, comme tu dis, je pense que le ce qu'on peut faire, c'est le mieux qu'on peut faire. Donc, idéalement, je le porterais à marcher dans la forêt tous les jours. Bon, à la place, je le porte pour descendre la colline sur laquelle on habite à Lisbonne et remonter ensuite. Il n'est pas au contact de la nature quand je fais ça, mais au moins, il est porté. On essaye de faire ce qu'on peut, d'appliquer des principes qui nous semblent utiles pour aider, donner les outils à Salvador pour qu'il sache faire ce que nous, on n'a pas su faire, à savoir s'aimer. Nos parents ne s'aimaient pas eux-mêmes. Nous, on comprend l'idée et parfois on y arrive et parfois on a du mal. Et ce qu'on espère, c'est que lui, il va vraiment y arriver et mieux que nous. Et je pense que c'est ça l'évolution de l'espèce aussi, c'est qu'à chaque génération, on fait mieux que nos parents, en général, en tout cas dans la majorité.
Et du coup, il aura plus de graines de sérénité plantées que nous n'en avons eues.
Bah, je pense. Il va être introduit à la méditation assez tôt avec les parents qu'il a. Et au yoga, et il va avoir beaucoup de contacts avec la nature, beaucoup plus que moi je pouvais avoir, par exemple, étant citadin à Paris. On est encore en ville là, en ce moment, on est à Lisbonne, mais il y a beaucoup plus de nature ici. On peut aller à la plage une fois par semaine, on a beaucoup de chance pour ça. Moi, l'enseignement qui m'a le plus touché ces derniers temps, c'est l'enseignement de la tradition non duelle. Les enseignements tels que repopularisés par Ramana Maharshi et Nisargadatta Maharaj au milieu du XXe siècle, qui sont aujourd'hui mis à une sauce encore plus contemporaine par des personnes extraordinaires comme Rupert Spira, un Anglais. Et qui dit ça, en fait, on est la paix, on est la conscience universelle, on est la paix, on est l'être, c'est toujours en nous, c'est juste qu'il y a des couches par-dessus qui nous empêchent de ressentir ça. Donc débarrassons-nous de ces couches, débarrassons-nous des croyances pas utiles et comprenons que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas besoin de quelque chose en plus, on a besoin de quelque chose en moins, et là on pourra retrouver la sérénité.
Mais comme tu disais toi-même, les croyances ont la vie dure, donc ce n'est pas forcément simple de se débarrasser et d'identifier, ne serait-ce que d'identifier les couches en plus et d'arriver à les enlever, parce que si on a tous ces vêtements sur nous, c'est aussi parce qu'on a l'impression que ça nous protège.
Oui, oui, absolument.
Et qu'il y a peut-être une crainte d'exposer notre vulnérabilité.
Complètement. Complètement. C'est pour ça que il y a toutes sortes de travaux, de pratiques qui peuvent être utiles, d'avancer dans la connaissance de soi, du travail thérapeutique. Moi, ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment arrêté, parfois avec un thérapeute, parfois par moi-même, avec des méthodes. En ce moment, je suis à fond dans IFS. Je ne sais pas si tu connais le Internal Family Systems de Dick Schwartz, qui explique qu'on a...
Ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Mais...
Qu'on a tous une famille interne, en fait, des protecteurs, et qu'il faut apprendre à parler à cette famille, à comprendre ce qu'ils ont à nous dire. Exactement comme tu disais, ils sont là pour nous protéger, mais souvent, en essayant de nous protéger, ils nous font plus de mal que de bien. Et donc, pour désamorcer ce mal qui est fait en essayant de nous faire du bien, il faut essayer de comprendre d'où viennent ces membres de la famille, pourquoi ils sont là, ce qu'ils essayent de faire, comment leur parler. Et effectivement, c'est ça qui va permettre de changer son système de croyance. Enfin, c'est juste une manière parmi plein de modalités différentes qui existent. Mais oui, quelque part, ce que disent les enseignants depuis la nuit des temps, c'est qu'en fait, il n'y a rien à faire, tout est là, tout est en nous, mais en même temps, il y a tout un travail que moi, j'ai pu faire, le travail thérapeutique, travail chamanique, travail méditatif, qui permet justement d'enlever les couches, de désamorcer certaines croyances, de diminuer le poids des conditionnements. Mais c'est progressif.
C'est progressif, il n'y a pas de méthode magique, c'est long, c'est le chemin d'une vie, et c'est pas, ça se trouve ni dans les livres, ni dans les magazines, même les plus beaux magazines
du monde. Ah, tu peux avoir des pistes quand même dans les livres et les magazines, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, non ?
Oui, mais c'est de l'inspiration.
Oui, oui, oui.
Et tu vois, tu reçois des graines, elles arrivent dans ton champ intérieur, et il va se passer ou pas quelque chose en fonction de qui tu es, de ton histoire. C'est pas voilà, il y a des gens pour lesquels des constellations familiales, ça va, voilà, ça va permettre de poser son attention sur des choses, et puis d'autres pas du tout, ils vont y être réfractaires. Donc c'est pas, bah, comme tu disais, il y a des tas de méthodes, mais il y en a pas une qui fonctionne. C'est aussi pour ça, ce que je dis à tous, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'échanger avec vous aujourd'hui après 10 ans. C'est que depuis 10 ans, le monde du développement personnel est devenu un business excessivement florissant et florissant de promesses, et du coup très culpabilisateur, hein, parce que ce qu'on vendait, c'est « mais le bonheur est à portée de vous, si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute ». Parce qu'il suffit de, ben non, non, le bonheur n'est pas à portée de main, c'est vraiment, c'est le chemin, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que non, toi, tu l'as vu aussi se développer, ce grand business, cette grande foire de...
Je l'ai vu, bah moi, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans, oui. Ouais, aussi, que je me suis lancé dans...
Dans les antisèches, c'était à ce moment-là, ouais, aussi, hein.
Dans cette nouvelle voie, ouais. Et oui, y a plein de manières différentes. Je pense que ouais, non, l'idée, ce n'est pas du tout de culpabiliser, c'est d'inspirer, de donner des outils. Moi, mon approche, c'est de dire, voilà, j'ai fait ça. Voilà ce que ça me fait du bien. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, ou alors ça, je pense que ça ne vaut pas trop le coup d'essayer. Et à chacun de tester. Mais oui, non, et puis on a tous des histoires différentes, on a tous des bagages différents. Y a pas, plus j'avance et moins j'ai l'impression que il existe de solutions universelles. Au début des antisèches, j'essayais de marteler, il faut que tout le monde médite 10 minutes par jour le matin avant le petit déj, pas de petit déj tant que t'as pas médité, ça va changer ta vie, tu le fais 3 semaines, tu le fais 10 jours, tu sentiras les bienfaits, 3 semaines ça sera une habitude et tout, et en fait ouais, non, je pense qu'avec l'âge vient peut-être un peu moins de prétention, un peu plus d'humilité et de dire, en fait, je ne sais pas trop, moi, voilà ce qui fonctionne pour moi. Est-ce que tu veux essayer d'aller un peu plus en douceur ?
Puis, il y a plein de façons de méditer. Ce n'est pas forcément s'asseoir par terre avec les doigts comme ça. Et, enfin, voilà, on peut méditer en glandant sur le canapé et en ayant les yeux fixés sur un chat. Et juste en le regardant faire ce qu'il fait, et il ne se passe rien, et il y a les pensées qui traversent, il y a le chat qui fait sa toilette, et il y a les pensées qui continuent à traverser, mais on est... Et ça fabrique une espèce de méditation, parce que, voilà, on est juste là, soit avec soi, avec le chat, point. Avec le chat, avec n'importe quoi, on peut... Enfin, c'est... Et puis, on peut méditer en faisant la vaisselle.
Oui, absolument.
La méditation, ce n'est pas l'inactivité, c'est pas...
Non, non, et tu as raison, il y a plein de formes de méditation. Moi, la méditation, la pratique du silence, les yeux fermés, assis en posture de méditation, m'a beaucoup aidé, personnellement. C'est pour ça que j'en ai parlé autant, c'est pour ça que j'ai créé une appli de méditation. Et ça m'aide encore beaucoup. Mais tu as raison qu'on a tous des chemins différents. Ouais,
En revanche, entre ce type de méditation que tu décris et le fait d'être assis sur son canapé à ne rien faire et à regarder son chat, il y a quand même la notion de « je me pose et je suis là ». Les yeux fermés ou pas les yeux fermés. Toi, quand tu te médites, tu te concentres sur ta respiration. Si tu regardes ton chat, tu te concentres sur ton chat. Mais il y a quand même un mouvement corporel proche de se poser.
Absolument. Et puis au final, peut-être le plus important, c'est pas tant méditer, pas méditer, c'est notre capacité à être présent.
Oui.
C'est notre capacité à être verticale plutôt qu'à l'horizontale, de diminuer les projections sur le passé, sur le futur, et de réussir à vraiment être là. Si tu es là totalement avec ton chat, et en train d'observer sa grâce, ses gestes, la lumière sur ses poils, c'est une expérience très différente que si tu le regardes à moitié et que tu es en train de rêvasser qu'est-ce qui va se passer demain et qu'est-ce qui s'est passé hier.
Exactement, ouais. Ouais, tout à fait. Donc le chat peut être très utile pour atteindre la sérénité, bon, si on n'est pas allergique.
Il paraît.
Oui. Merci beaucoup. Là, on est en train d'enregistrer en 2023, mais vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous ne le savez pas parce que vous allez nous regarder et nous écouter en 2024. Mais donc, du coup, Jonathan, qu'est-ce que tu aurais envie de souhaiter pour les 10 ans d'Happiness, pour les 10 ans des antisèches du bonheur aussi, et pour 2024 à nos auditrices et à nos auditeurs sur le chemin de la sérénité?
Ouais, bah écoute, j'ai envie de souhaiter aux auditrices et aux auditeurs d'avancer sans se prendre trop la tête, d'essayer de faire ce qui nous fait du bien et de se débarrasser de la culpabilité et des « il faut que » et de rendre cette démarche légère, joyeuse, remplie d'humour, parce que il n'y a rien qui est vraiment si sérieux que ça. Donc c'est ça que je voudrais souhaiter aux personnes qui nous écoutent, et je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à Happiness. Bravo à toi, Nathalie, c'est formidable ce que vous faites, d'ouvrir justement les portes de différentes pratiques, de différents concepts, d'une autre manière de vivre et d'envisager la vie, de semer des graines. C'est magnifique. Un plan plus personnel, merci infiniment de comme vous et tu et vous m'avez soutenu toutes ces années, m'aider à faire passer.
On est fidèle.
Pardon ?
On est fidèle.
Oui, et moi à vous, et m'aider à faire passer les messages qui brûlaient à l'intérieur de moi, que j'avais envie de laisser passer, de parler de mes bouquins et de mon appli de méditation, et c'est formidable, et je vous kiffe.
Et tu as des projets là à venir ?
Ouais. Et je suis en train d'écrire un livre.
Ah.
J'écris un livre sur la paternité. Écoute, c'est le projet du moment. Tu sais, la façon dont ça fonctionne pour moi, et sans doute pour beaucoup de personnes qui écrivent, c'est que il y a un livre pour 5 projets. Donc, là, je te parle du projet du moment. Est-ce que il va voir le jour? Les 2 ou 3 derniers projets ont été mis gentiment au frigo, pour pas dire certains à la trappe. Mais là, c'est un livre sur la paternité. C'est une lettre croisée à mon père et à mon fils, à mon père qui est décédé, à mon fils qui est un bébé, sur les grands thèmes de la vie. Donc, un règlement de compte avec mon père, mais aussi où j'applique le travail thérapeutique, la compassion, je pose des questions, j'exprime la gratitude pour tout ce qu'il m'a transmis, je partage des souvenirs, et puis à mon fils, une lettre comme j'aurais voulu recevoir de mon père. Je te raconte ma vie, je te dis les choses importantes que j'ai apprises à ce jour que j'aimerais partager avec toi.
Donc, tu retisses les fils d'en haut et tu tisses les fils d'en bas.
Exactement. Et ouais, je m'éclate.
Mais on a hâte.
Ouais.
De ce que tu me dis, moi, j'ai eu plein de frissons.
Ouais.
Et, oui, j'ai eu plein de frissons. Et vraiment. Et j'espère que ce projet, j'espère que ce projet verra le jour, parce qu'en plus, indépendamment du fait d'être édité ou pas, il y a quand même un Français sur trois qui écrit. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Un peu de tout, des carnets, des poèmes, des chansons, des textes, etc. Mais ce que tu dis, le fait de travailler la liaison vers le haut, la liaison vers le bas, et tu parlais tout à l'heure de verticalité, c'est de se réinscrire dans notre histoire, dans notre généalogie, en faisant la paix avec derrière, en semant des graines, enfin voilà, de faire le lien. Et ça peut être un exercice, tu vois, le fait de lire un livre comme le tien, ça peut donner envie de le faire, de le faire soi-même. Et je pense que c'est un exercice extrêmement thérapeutique, mais si tu le vois pas écrit, tu sais pas forcément comment le faire. Alors que si on lit un livre comme le tien, ça va nous donner des idées parce qu'on va se projeter. Il va y avoir des choses qui vont ressembler, des choses qui vont être à l'opposé, puis on va se projeter. Ouais, voilà, ça peut être avec la maman et avec la fille. Non, mais vas-y, continue, c'est génial. Génial.
Merci Nathalie, t'es adorable.
C'est génial. Et à vous toutes et tous qui nous entendez, je suis sûre que vous avez hâte de lire le prochain livre de Jonathan sur ce thème, parce que c'est pas que la paternité, parce que là, toi, tu vas le faire, tu parles à ton papa et tu parles à ton fils, mais moi, quand tu me parlais, je voyais maman qui est partie il y a pas très longtemps et ma fille, donc tu vois, on peut tous avoir envie de le faire, et puis c'est pas obligé que ça fasse 110 pages, ouais. Tu vois, ça peut être juste un... Et c'est oui, au contraire, je pense que c'est un outil thérapeutique très, très puissant de faire ça.
Écoute,
et voilà. Alors, je nous souhaite à tous pour 2024 ou 2025 de pouvoir lire le livre de Jonathan et de nous essayer à cet exercice d'écrire à un de nos parents pour faire la paix et remercier, et d'écrire à un de nos enfants. Et même si on n'en a pas, ça peut être un enfant rêvé, ça peut être notre enfant intérieur. Enfin, c'est pas parce qu'on n'est pas parent biologique que ça fonctionne pas, en fait. Ça n'a rien à voir.
Ouais, non mais complètement. Et moi, avant d'écrire ce livre, j'ai, dans différentes retraites, et j'avais déjà écrit à mon père, à ma mère, à mon enfant intérieur. Donc ouais, c'est sûr que ça fait du bien de faire ça.
Eh bien, merci beaucoup Jonathan. Et puis bonne soirée. Alors je vous dis bonne soirée, mais enfin parce qu'en fait on enregistre en fin de journée. Sinon, bon après-midi, bonne matinée, bon appétit, en fonction de l'heure à laquelle vous nous entendrez. Au revoir.
Si, au revoir.